Le nombre hebdomadaire de décès liés au coronavirus dans le monde a atteint son chiffre le plus bas depuis un an, depuis l'automne 2020. On enregistre une baisse de 30 % dans le monde depuis le mois d'août, de 35 % aux États-Unis depuis le 1er septembre. On sait que ça brûlait pas mal aux États-Unis en fin d'été. Et la question se pose, à quel point il faut se réjouir de cette nouvelle et espérer peut-être une fin de pandémie, peut-être quelque part en 2022. On va en parler avec Dr. Caroline Quash, elle est microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste au CHU Sainte-Justine. Dr. Quash, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Est-ce qu'on peut être optimiste?
Ben, je suis toujours optimiste jusqu'à la prochaine mésaventure. Je pense que c'est d'excellentes nouvelles qu'on a là, particulièrement au Canada puis au Québec, là, où notre pourcentage de couverture vaccinale est très, très bon. Mm. En fait, je pense qu'on fait bien, là.
Qu'est-ce qui explique qu'aux États-Unis, ça a commencé à baisser comme ça? Parce qu'on le sait, là, à la fin de l'été, il y a des régions où c'était critique, là. Les hôpitaux étaient vraiment, vraiment pleins. Dans le sud des États-Unis, surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment?
En fait, c'est un peu compliqué. Il y a certaines régions où ils ont remis en place certaines mesures de prévention, le port du masque, distanciation et tout. Il y a d'autres régions où on a l'impression que ça a juste fini par aller chercher tous les gens qui étaient susceptibles à cette vague-là, puis on a un petit peu comme ralenti la transmission. Mais c'est pas la première fois où on voit que les choses semblent se passer par cycle de 2 mois. Fait que ça monte pendant à peu près 2 mois, puis là, après ça, on atteint un sommet, puis ça finit par redescendre. Ce qui veut pas dire que toute la population a attrapé le virus, mais ce qui veut dire que les gens qui étaient susceptibles de l'attraper pendant cette vague-là, pour une raison ou une autre, ont été infectés. Puis après ça, en espérant que ça remonte pas avec un autre variant, mais c'est toujours ça la crainte. C'est quand on voit que ça commence à descendre, si on relâche toutes les mesures, ben là, on sait que ça va remonter. Mais avec les mesures en place, on a atteint un plateau, ça finit par rebaisser jusqu'à la prochaine chicane.
Aujourd'hui, au Québec, là, il y avait 400 cas, Dr. Quash. Ouais. 400 cas, si on se ramène à il y a un an, quand on n'avait pas de vaccin, ça aurait été, il y a un an, avant le variant Delta, ça aurait été jugé catastrophique. Sans le vaccin, à 400 cas par jour, ça ressemblerait à quoi?
Ben, ce que ça voudrait dire, c'est qu'on aurait beaucoup plus d'hospitalisations. Cette année, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont vaccinés ont comme 30 fois moins de risque d'être hospitalisés, ce qui fait que sur 400 cas, ben, on se ramasse pas avec des centaines d'hospitalisations. Bon, le 400 cas aujourd'hui, on se rappelle encore là, qu'on est lundi. Donc, de façon générale, les gens se font un peu moins tester la fin de semaine. Ça finit toujours par remonter mardi, mercredi. Là, c'est une fluctuation hebdomadaire qu'on voit. Mais malgré tout, cette année, en termes d'hospitalisation, on est à 290 hospitalisations, puis on diminue, alors que l'année passée, on aurait continué probablement à monter encore. Ouais. On n'aurait pas atteint un plateau aussi rapidement, là, parce que cette année, tu sais, on a vu, on est monté jusqu'à 600, 700, puis on a comme atteint un plateau, puis là, on est stable depuis plusieurs jours.
OK. Dr. Quash, vous êtes microbiologiste, infectiologue, donc les virus, vous connaissez. Vous êtes aussi pédiatre. Là, on parle beaucoup d'étendre le vaccin aux moins de 12 ans. On sait qu'il y a des études cliniques. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui pourraient être inquiets à l'idée de vacciner leurs enfants?
Bien, je pense que quand on va avoir les résultats de ces études-là, on va avoir des données sur à peu près 2 à 3 000 enfants qui auront été vaccinés, 2 à 3 autres 000 qui auront été dans le groupe contrôle. Donc, on va voir d'emblée si la réponse immunitaire est bonne. Puis, on va avoir des données de sécurité sur un nombre de 2 000 à 3 000. Là, c'est sûr que si je cherche un effet secondaire à 1 sur 100 000, je le trouverai pas, mais je l'aurais pas trouvé à 30 000 non plus. Savoir que la dose qui est utilisée pour les vaccins est quand même moins élevée que ce qu'on met dans les doses pour les plus vieux. Et souvent, les effets secondaires sont fonction de la dose. Donc, on espère qu'il va y avoir moins d'effets secondaires. Je pense que je dis aux parents que ce vaccin-là protège l'enfant. On est d'accord que pour l'enfant, le risque de complications de la COVID est pas nul, mais il est pas très grand, mais qu'il est là aussi pour protéger les gens autour de lui. Je pense que c'est correct de se poser des questions. On va regarder quand les données vont sortir parce qu'on ne les a toujours pas vues. Mais je pense que la vaccination se doit d'être proposée, mais ne devrait pas être forcer le moindrement, là. C'est-à-dire que je pense qu'il serait inapproprié ou enfin non judicieux de l'attacher, par exemple, avec un passeport vaccinal pour les activités parascolaires, par exemple. Parce que risque-bénéfice, comme vous le disiez, là, y a quand même peu de complications depuis le début chez nos jeunes enfants qui ont fait la COVID.
Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui vous posent des questions, qui sont inquiets face à l'idée d'un vaccin COVID, anti-COVID pour leurs enfants?
Pas encore, pas tant que ça. Je pense que tout le monde attend de voir les données, mais même au sein de collègues, tu sais, on l'entend, là, tout ce qu'on dit depuis le début, où ce vaccin-là est là pour protéger contre les hospitalisations, les décès, pour protéger les plus vulnérables, puis essayer de limiter la transmission le plus possible. Tu sais, les parents me disent, oui, mais là, qu'est-ce que je vais chercher pour mon enfant? Ben, on va quand même chercher une protection, là, ça c'est clair. Mais c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de sensibilité, je vous dirais, chez les 5-11 ans qu'on a vu, par exemple, chez les personnes plus âgées.
OK, dites-moi, là, j'ai vu en fin de semaine, puis j'aimerais ça départager le vrai du faux, du ce qu'on appelle le hype, là, disons, l'exagération. Il y a la pharmaceutique Merck qui a dans son pipeline un médicament, c'est pas un vaccin, mais qui permettrait de réduire, d'atténuer les effets graves du virus. Est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux, cette nouvelle-là?
Tout à fait. En fait, l'étude randomisée contrôlée a même été arrêtée précocement parce que le médicament était tellement bon que ça c'était non éthique de continuer puis de continuer à exposer des gens au virus sans leur offrir le traitement. Et donc, je pense que c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que quand on est qu'on soit vacciné ou pas, là, si on fait la COVID, ben il y aura un médicament pour prévenir les complications. Il va falloir ensuite voir à qui on donne ce médicament-là. Est-ce qu'on le donne à tous ceux qui font la COVID ou si on le réserve à des gens qui sont plus à risque de complications, parce qu'il faut se rappeler que le médicament est quand même autour de, je pense, 700 $ le traitement, là, ce qu'il disait en fin de semaine. Donc, ça va être à voir comment est-ce qu'on l'utilise. Puis, ce qu'on comprend de ça jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut l'administrer rapidement après le début de la réplication virale, parce que c'est là qu'il va avoir un rôle à jouer. Donc, évidemment, il faut avoir accès à un test diagnostique pour s'assurer que c'est bel et bien une COVID-19 et pas un influenza, bien qu'il semble que ce médicament-là puisse aussi avoir une activité contre le virus de la grippe, parce qu'en fait, au départ, il avait été développé pour traiter la grippe.
Merci beaucoup, Dr. Quash. Bonne journée.
Merci à vous aussi.
Salut, c'était Dr. Caroline Quash, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste au CHU Sainte-Justine. C'est l'heure de parler avec Philippe Quentin.